Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc avant de commencer cette séance du conseil municipal, je vais m'adresser bien sûr à l'ensemble des élus, aux pradétanes et aux pradétans qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Vous savez que ce lundi 30 septembre a été déclarée journée de deuil national. Donc, en préambule du conseil municipal, il m'a paru un devoir de rendre hommage au président Jacques Chirac, un unissant de la France. Il avait une certaine idée de la France et une conscience très profonde de ce qu'il devait faire pour le pays. Son engagement a été total. Malgré les difficultés inhérentes aux nombreuses fonctions qu'il a exercées au cours de sa carrière, il n'a jamais abandonné les Françaises et les Français. Il a toujours fait face à ses responsabilités. Sa fidélité et sa loyauté envers le peuple de France a été sans concession. Il n'aura eu de cesse d'écouter, de consulter. Sans doute a-t-il hésité parfois avant de trancher et prendre des décisions parfois difficiles, mais nécessaires pour le mieux-être de la France. Ses décisions, il les a toujours assumées courageusement. Je veux terminer cet hommage par le souvenir qui restera à tout jamais dans le cœur des Françaises et des Français. Ce même cœur qu'il avait aussi gros que son amour de notre pays. Sa simplicité. Il aimait le contact avec le peuple. Il aimait simplement vivre et profiter de la vie. Pour toutes ces raisons, il aimait les rassemblements populaires, lorsque les gens peuvent se rassembler et partager un même bonheur, quel que soit leur âge, les difficultés de la vie ou leurs conditions sociales. Peut-être imagerons-nous sa longue silhouette sur nos prochains rendez-vous pradétans. Je vous propose maintenant de respecter une minute de silence avant d'ouvrir notre séance de conseil municipal qui sera empreinte de dignité républicaine, comme d'habitude, par respect pour la mémoire du président Jacques Chirac. Donc, nous allons commencer par l'appel. Donc, Magali Vincent.
Bonjour à tous. Alors, pour l'appel, Monsieur Hervé Stassinos, Monsieur Christian Garnier, Madame Valérie Vialan, Madame Josiane Sicardi, Monsieur Pascal Campins, Madame Cécile Gomez, Monsieur Jean-François Plane, Madame Bérénice Bonal, Monsieur Jean-Michel Perratou, Monsieur Paul Moureau, Madame Céline Pratier-Aiguier, Magali Vincent donc présente, Monsieur Denis Chambi, Madame Viviane Thiard, Monsieur Véga Jean-Claude, Madame Bénédicte Lemoine, Monsieur Daniel Vesreau, Monsieur Daniel Duvoux, Madame Agnès Biazuteau, Madame Valérie Aubry, Monsieur Jean-Marc Illich, Madame Dominique Rouland, Madame Nicole Roux, Monsieur Lionel Riquel, Monsieur Patrick Roisse, Madame Nicole Vaca, Monsieur Frédéric Fior, Monsieur Stéphane Beltra, Madame Jennifer Dely, Monsieur Yves Parent, Madame Agnès Moscardini, Monsieur Olivier Durand, Monsieur François Meurier.
Merci Magali. J'ai le pouvoir de Jennifer Dely pour Olivier Durand, Agnès Moscardini pour Nicole Vaca, Yves Parent pour Frédéric Fior, et Monsieur Patrick Roisse pour moi-même. débuté cette conseil municipal. Madame Sicardi, je vous en prie, vous voulez prendre la parole. Je vous la donne avec grand plaisir.
Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, la victoire aux élections municipales de 2014 a été une réelle satisfaction, car l'avenir du Pradé était concerné. Nous partagions ce sentiment de l'impérieuse nécessité de voir une nouvelle équipe reprendre en main la gestion communale. L'alliance avec l'équipe de Lionel Riquelme a permis d'atteindre cet objectif et de gagner ensemble les élections municipales. La nouvelle équipe municipale a révélé des femmes, des hommes engagés dans leurs délégations respectives, qui ont œuvré pour une gestion saine de notre commune avec une réelle volonté de préserver notre patrimoine naturel et culturel et de développer harmonieusement notre cité. Malgré ce fort potentiel dont nous disposions et toutes ces bonnes volontés individuelles, nous avons constaté l'impossibilité d'un travail collectif efficace, l'impossibilité de partager nos idées et d'unir nos forces. En effet, monsieur le maire, vous n'avez pas souhaité dialoguer constructivement avec les élus municipaux et vous n'avez pas su travailler en équipe. Notre engagement vis-à-vis des Pradétans, notre sens des responsabilités et notre volonté de ne pas déstabiliser l'équipe municipale nous a conduits à poursuivre notre travail jusqu'à présent. Aujourd'hui, à quelques mois de la fin de la mandature, nous pouvons sereinement nous démarquer sans perturber la gestion communale et annoncer officiellement que nous ne soutiendrons pas, monsieur le maire, votre candidature aux prochaines élections municipales. Aussi, nous avons décidé de former un groupe indépendant au sein du conseil municipal afin de rester au service du Pradé et des Pradétanes et des Pradétans et de tous les concitoyens jusqu'à la fin de ce mandat. Je vous remercie.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Non? Monsieur le maire, juste poser une question. Madame Sicardi, est-ce que je ne comprends pas trop? Je relis votre courrier que j'ai reçu ce matin. Vous dites qu'en fait, votre équipe reste au sein de la majorité municipale.
Oui, monsieur le maire, nous souhaitons donc créer un deuxième groupe de majorité municipale.
Ça veut dire qu'en fait, vous continuez à voter des délibérations avec nous, vous continuez à assister aux réunions de majorité, c'est votre souhait en tout cas, et d'accompagner la politique de la municipalité.
Nous allons continuer effectivement à œuvrer jusqu'à la fin du mandat, loyalement vis-à-vis des Pradétans et donc de l'équipe, et nous voterons en conséquence.
Donc vous allez voter toutes les délibérations aujourd'hui par exemple?
Je ne sais pas. Pas aujourd'hui?
Oui.
Aujourd'hui, ben, ça dépendra des délibérations. Apparemment, toutes les délibérations d'aujourd'hui, on verra au fur et à mesure des délibérations.
Parce que pour juste le fonctionnement d'une équipe, ce qu'on fait d'ailleurs, il y a une réunion de majorité, des réunions d'adjoints qui se passent. C'est un ordre du jour qui a été vu déjà avec toute la majorité qui ne semblait pas poser de problème il y a 15 jours. Donc je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, peut-être qu'on va les découvrir aujourd'hui, mais on verra bien. Madame, il n'y a pas de problème.
Bon, monsieur le maire, aujourd'hui, il n'y a pas de problème sur les délibérations.
Très bien, mais écoutez, on va voir comment se déroule le conseil municipal et en fonction de ça, on verra effectivement quelles sont vos réelles volontés, quel est votre réel comportement au sein du conseil municipal. Parce que certains, c'est que depuis le début du mandat, on a effectivement, il faut que les prédateurs le sachent, la façon dont on a travaillé. Alors peut-être que ça ne satisfait pas tout le monde, ça, vous savez, c'est ce que j'expliquais à propos de Jacques Chirac. Quand on manage une équipe, et Dieu sait si j'ai une longue expérience de management dans la vie, on ne peut jamais contenter tout le monde. Voilà, donc on fait un travail, on essaie d'atteindre des équilibres, des arbitrages à rendre parfois, qui en satisfont certains, qui en peinent d'autres. Ça m'est arrivé aussi de faire des arbitrages qui n'allaient pas forcément dans le sens de ce que je pensais moi. Mais j'ai toujours mis les problèmes sur la table, j'ai toujours écouté tous les conseils. Toujours. Après, il est arrivé qu'on ait des différences d'appréciation sur la situation. Ça arrivera encore sur cette mandature, sur la prochaine. On verra bien. Il y a, je crois aussi, M. Marie, après, qui voulait prendre la parole. Je propose, de toute façon, c'est de passer à l'ordre du jour. Hein, et puis, on verra comment se passe ce conseil municipal. L'intérêt pour moi, je pense, comme l'ensemble du conseil municipal, c'est de toute façon d'œuvrer au quotidien pour un mieux-être des Pradétans. C'est la seule chose qui m'anime depuis le début de mon mandat, l'efficacité, l'engagement, la fidélité, la loyauté. Puis ne manquer à aucun de ces engagements. Monsieur Meurier, allez-y.
Oui, je me mets à la place des Pradétans devant ce spectacle navrant et pitoyable. Il y a déjà de la méfiance et de la défiance envers nos élus. cela donne une image catastrophique de la politique locale, à 6 mois des élections municipales, comme par hasard. Au moins, cela confirme ce que nous dénoncions, une gouvernance solitaire plutôt que collégiale, et des difficultés de dialogue. Monsieur le maire, nous nous sommes vus pour la dernière fois lors du conseil municipal du 17 juin, il y a 105 jours. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Autre chose, votre groupe, comment va-t-il s'appeler et de qui précisément est-il composé ?
Alors, je vais vous répondre parce que j'ai reçu un courrier ce matin. Donc le groupe nouvellement créé de ce matin s'appelle, oui c'est marrant parce qu'on innove beaucoup dans la commune, hein. On fait du 2.0, on innove aussi dans le fonctionnement de la conseil municipal. Alors donc, comme l'a expliqué Mme Sicardi, c'est une équipe qui se monte au sein de la majorité municipale, si j'ai tout compris. Donc ils vont continuer à accompagner la majorité. Mais si j'ai tout compris au travers des lignes, je peux me tromper, c'est en fait faire en sorte que leur voix porte plus, qu'il y ait plus de démocratie interne, plus de concertation, qu'on prenne plus l'avis des conseils municipaux. Je crois que c'est un peu l'idée, sans trahir quoi que ce soit. Donc les noms des personnes listées, je vais regarder droit dans les yeux, parce que j'en ai eu certains au téléphone et par SMS, Valérie Aubry, Daniel Duvoux, Dominique Roland, Paul Moreau, Josiane Sicardi, qui nous a fait l'honneur de prendre la déclaration aujourd'hui, Lionel Riquelme, Viviane Thia, Daniel Vesreau, Céline Prati et Denis Chambi. Madame Thia, vous voulez prendre la parole, je vous la donne avec grand plaisir.
C'est vraiment les 10 élus de majorité qui pensent la même chose et cela devrait vous interpeller. Merci, monsieur le maire.
Monsieur Fior.
Merci, monsieur le maire.
Attendez, je n'ai pas répondu à la question, le nom de la liste.
Ah, ça m'aurait
été. Je vais retrouver, j'essaie de le voir. Alors oui, c'est une équipe dans la majorité. Une équipe dans la majorité, constituée donc des 10 personnes dont je viens de vous délivrer le nom. On est parti pour mettre un peu d'ambiance, on a 6 mois les élections, il faut profiter, allez-y.
Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais saluer le courage des 10 personnes qui font le choix de se séparer modérément, mais de se séparer et de constituer un groupe. Ce n'est pas une chose facile de quitter une équipe, ce n'est pas une chose facile de s'engager en politique, ce n'est pas une chose facile d'être élu. Et c'est vraiment une démarche courageuse. Je ne pense pas, à titre personnel, que ce soit une démarche politicienne. Donc, je tenais à leur faire part de ce sentiment. Deuxièmement, si leur objectif est d'obtenir un peu plus de concertation, un peu plus d'écoute, un peu plus d'empathie de la part de notre maire, avec la constitution d'un groupe, j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Parce que nous-mêmes, nous avons constitué un groupe depuis bien longtemps et je ne pense pas que nous ayons été associés à quelques concertations que ce soit, à quelques décisions que ce soit et à quelques écoutes que ce soit. Donc, le groupe que vous avez constitué, je doute qu'il bénéficie d'une oreille plus attentive que le maire, mais l'avenir dira si je me trompe ou si vous aviez raison sur le sujet. Monsieur le maire, je suis très étonné de votre ressenti et de votre manière de prendre les choses par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Parce que je pense que vous devriez quand même vous remettre en cause. Ce n'est pas la première fois. Vous aviez été historiquement chef du groupe de l'opposition. La moitié de votre équipe avait démissionné également. Là, vous êtes chef du groupe de la majorité. Quasiment la moitié de votre équipe démissionne également et vous quitte. Je pense que vous devriez réfléchir à ces éléments. Merci.
Merci de votre bon conseil. Je vais laisser passer la nuit là-dessus et j'aurai le temps de réfléchir. Je vous propose de passer à l'adoption du PV. Monsieur Riquelme, allez-y, je vous en prie.
Merci, monsieur le maire. Je voulais insister sur un point par rapport à ce qui vient d'être dit. Espérer plus de concertation, ce n'est pas vraiment le sens de votre message. Si vous avez bien écouté le message de Josiane Sicardi, vous pourrez le relire si nécessaire. C'est nous démarquer sans perturber la gestion communale et annoncer officiellement que nous ne soutiendrons pas, monsieur le maire, votre candidature aux prochaines élections municipales. C'est un acte fort.
Donc c'est bien une démarche politique finalement. Je vous propose de passer à une dernière question, et puis après, on a quand même comme on ne veut pas trop perturber, ce que j'ai compris, on est bien d'accord là-dessus sur ce point, cher monsieur Riquelme, on ne veut pas trop perturber le fonctionnement du conseil municipal. Allez-y, puis après je vous propose de passer au vote, hein, du PV, des heures du jour, et après on aura un espace de discussion après, si vous le souhaitez, avec très grand plaisir. Je vous en prie, monsieur Fior.
Je remercie monsieur Riquelme d'avoir mis les points sur les i, et effectivement, les choses sont très claires. Merci.
Je vous remercie. Je propose de passer au vote du PV pour commencer. Donc le PV de la précédente séance du conseil municipal. Qui est contre? Monsieur Fior, allez-y, je vous en prie. Et monsieur Durand après.
Monsieur le maire, encore une fois, quand vous menez les débats, ça fait bientôt 6 ans, avant de procéder au vote, ayez l'amabilité de demander si quelqu'un veut bien intervenir. Merci. Et donc si vous me posez cette question, je souhaiterais avoir la parole. Merci. Et donc, une fois de plus, on dénonce le fait qu'il n'y a aucun compte rendu et que c'est malgré 5 ans de demande, aucune information n'est transmise. Vous mettez les comptes rendus audio à la dernière minute, c'est-à-dire plus de 3 mois après le conseil municipal, juste avant le nouveau conseil municipal. Ça ne nous semble pas être une pratique démocratique. Merci. Nous voterons donc contre ce compte rendu qui n'en est pas un.
Je vous remercie. Donc on va passer au vote. S'il n'y a pas d'autres interventions, qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Effectivement, c'est bien parti. Alors ensuite, on va passer à l'ordre du jour en lui-même. Délibération numéro 1, c'est donc Jean-Michel Perratou qui va nous présenter les deux premières délibérations. Jean-Michel.
Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement d'exercice 2020. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes d'engager et de liquider de mandater les dépenses de la section de fonctionnement à la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il est proposé au Conseil de permettre à monsieur le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% avant l'adoption du budget principal qui devra intervenir avant le 30 avril 2020. Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise jusqu'à l'adoption du budget collectif 2020. Le maire a engagé, liquidé et mandaté les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Au chapitre 20, immobilisation corporelle, le BP était à 178 000 euros, 25% pour 2020 donne 44 500. Au niveau du 204, pour les subventions d'équipement versées, on avait 1 087 791, 25% donne 271 947. Au niveau du 21, chapitre, c'est l'immobilisation corporelle, on avait 3 484 209, 25% nous donne 871 052. Au niveau du 23, pour les immobilisations en cours, on avait 950 000 euros, 25% nous donne 237 500. Au total, on avait 5 007. Et 25% donne 1 425 000.
Si monsieur Perratou, est-ce qu'il y a une question? Monsieur Fior, allez-y, je vous en prie.
Juste une précision, nous allons voter pour cette délibération. Ça ne veut pas dire pour autant que nous rejoignons votre groupe.
Monsieur Fior, c'est comme ça que je vous aime. Vous êtes très taquin, on vous adore. Alors, on va donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 2, toujours M. Perratou.
Les admissions en nouvelle heure. Dans le cadre de l'appurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, le trésorier a proposé l'admission en nouvelle heure d'un certain nombre de créances détenues par la commune du Pradet. La, mission en non-valeur d'une créance a pour résultat d'apurer sa prise en charge. Elle ne libère pas pour autant le redevable. Le recouvrement devant être repris si le débiteur revient à meilleure fortune. Il est proposé au conseil municipal d'adopter l'exposé ci-dessus, d'admettre en non-valeur les titres non recouvrés figurant sur l'état présenté par le trésorier pour un montant de 7 568,25 €. La dépense en résultant sera imputée à l'article 65-41, créance admise en non-valeur pour 7 568,25 €.
Merci, M. Perratou. Est-ce qu'il y a des questions? M. Fiori, je pose la question à chaque fois maintenant, je ne vais pas faire d'impair. Au cas où vous rejoindrez, on ne sait jamais.
Merci, M. le maire. Ça va devenir compliqué parce que là, nous allons nous abstenir alors que nous aurions aimé voter pour, mais uniquement parce que vous ne nous donnez aucune information sur les non-valeurs. Je vous rappelle que les non-valeurs sont demandées par le Trésor public, mais que c'est voté en conseil municipal pour que ça soit public. Et donc, si vous ne nous dites pas quelles sont les non-valeurs, je vois mal comment un conseil municipal peut voter les yeux fermés, simplement, sur votre simple présentation.
Très bien.
Donc, si vous nous donnez la liste...
Bah, on n'a pas la liste là, donc je pense qu'en plus, il y a des noms dedans qu'on n'a pas le droit de, on a pas de communiquer. Les noms, juste une
information. Vous répétez, c'est une obligation légale.
Monsieur Fleur, mes services me disent qu'on ne peut pas donner les noms. Et voilà, donc moi, j'ai une recommandation de mes services qui me dit qu'on ne donne pas les noms. Je ne donne pas les noms. Il y a du RGPD là-dessus, il y a pas mal de questions qui se posent. Voilà. Après, si vous voulez venir les consulter, on peut vous les faire lire si ça vous intéresse. Je pense que là-dessus, éventuellement, pas de problème. On verra. Voilà.
Je vous répète que c'est une obligation légale et qu'un conseil municipal ne vote pas les non-valeurs sans savoir ce qu'il vote.
Tenez-vous chaud, je suis au regret. Si vous voulez vous
abstenir, je vous en prie.
Merci, M. Fior. Pas d'autres remarques. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 3, M. Garnier.
Oui, M. le maire, mesdames et messieurs, je vais vous demander de retirer cette délibération pour la simple raison qu'elle a fait l'objet d'un questionnement de ma part sur le fondement juridique qui était proposé. J'ai interrogé nos conseils et je n'ai eu la réponse que vendredi dernier, donc qui confirmait mes craintes. De tout au moins mes doutes, donc je retire, si vous le voulez bien, je retire cette délibération.
Donc on retire cette délibération. J'imagine qu'il n'y a donc pas de question dessus. On va passer à la délibération numéro 4. La question numéro 4 va être portée par Pascal Campin. Ça concerne le recrutement d'agents recenseurs. C'est une délibération qui passe tous les ans, pas de grosse surprise.
Bonjour à tous, donc je vais vous donner lecture de la délibération numéro 4 concernant le recrutement de 4 agents recenseurs et fixation de leur rémunération. Comme le prévoit la loi, 8% des logements doivent faire l'objet d'un recensement chaque année pour les communes de plus de 10 000 habitants. Afin d'assurer ce recueil d'informations, il est nécessaire de recruter des agents en charge de la collecte des données demandées par l'INSEE. Cette mission sera d'une durée de 5 semaines durant les mois de février et de janvier 2020. Le montant de la vacation est de 800 € par agent recenseur, comme en 2019. Il est demandé au conseil municipal de valider le recrutement de 4 agents recenseurs et de maintenir leur rémunération identique à celle de 2019. Considérant qu'il est nécessaire de recruter 4 agents recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement de la population dont l'enquête se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020, considérant qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs et que ces rémunérations seront couvertes en partie par la dotation de l'INSEE, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à nommer par arrêté les 4 agents recenseurs aux conditions subvisées, de fixer la rémunération des agents recenseurs à 800 € par agent, comme en 2019, étant précisé que ce tarif ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. Les crédits nécessaires à la rémunération des agents et aux charges sociales seront inscrits au budget primitif de l'exercice 2020.
Merci. Est-ce qu'on a des questions, M. Fior et M. Meury ensuite?
Merci. Juste pour vous dire que nous allons voter pour cette délibération, mais que je souhaiterais quand même revenir sur la délibération précédente pour savoir si la vente que vous avez autorisée a donc eu lieu ou n'a pas eu lieu, et quelle est l'incidence sur la situation du fait que vous ne délibériez pas sur la création de certaines servitudes. Comment peut-on vendre un terrain enclavé si on n'a pas d'accès?
Oui, excellente question. C'était le fondement d'ailleurs de mon questionnement sur le sujet. Or, cette servitude n'est pas nécessaire puisque ce sont des places de parking et que finalement, comme en ville, quand il y a des parkings sur la voie,
fond de bateau qui permet systématiquement, sans servitude particulière, d'accéder depuis l'espace public jusqu'à une propriété privée. Elle ne peut pas être enclavée. La réponse, donc, a été très claire du juriste. Il dit, vous n'êtes pas tenu, pour la vente de ce lot, de créer une servitude de passage, puisque ce sont des parkings, et que les parkings sont à caractère public. Donc, le fond de bateau qui permet l'accès à la parcelle n'est pas dépendant d'une servitude, comme partout d'ailleurs. Voilà la position de nos juristes. En ce qui concerne la vente de la parcelle, elle n'est pas encore réalisée.
Donc, si je comprends bien, nous avons des places de parking qui ne vont pas être utilisables, au moins toute ou partie, pour pouvoir mettre l'accès à cette parcelle-là.
Oui, c'est exact. Il y a une place de parking qui saute pour permettre l'accès. Ça, c'est ce qui est évident. D'accord. Par contre, je vous rappelle que nous avions procédé à un détachement de parcelle au profit de la copropriété voisine, qui a permis de garer un grand nombre de véhicules dans la copropriété, libérant ainsi les espaces de la voirie.
Ça ne nous pose aucun problème, sauf à matérialiser correctement sur le cadastre et sur le plan la place de parking qui saute, de manière à ce que les choses soient claires et nettes. Parce que si c'est une place de parking, n'importe qui peut s'installer devant. Et si c'est l'entrée de la personne, effectivement, ça peut poser une difficulté.
Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais vous le savez bien, le domaine public ne fait pas l'objet de numérotation cadastrale. Donc l'espace est totalement libre et sera simplement matérialisé par un fond de ce qu'on appelle le bateau, un fond de bateau, c'est-à-dire un abaissement des bordures face au portail, de façon à ce que les gens puissent entrer chez eux normalement.
Donc on revient à la délibération numéro 4 du coup. Question M. Meurier.
Oui, là on parle d'une mission qui va durer 5 semaines pour 4 agents recenseurs. La rémunération est de 800 euros. Et, concrètement, il y a combien d'heures de travail?
Qu'elle vous donne la réponse. Les sûr, c'est que c'est un forfait. C'est une libération qui a été reconduite de l'année dernière. Je ne pense pas qu'il y ait une différence.
Ça fait 4 euros de l'heure.
C'est vrai qu'on a des difficultés pour recruter des agents recenseurs, vous le savez, parce que c'était le cas aussi avant. C'est très difficile de recruter ça, les papy school, on y reviendra d'ailleurs. On va passer au vote, il n'y a pas de question. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 5, Agnès, ça concerne une subvention versée au syndicat des sports de glisse.
Oui, bonjour à tous. Donc, subvention d'investissement pour la reconstruction de la patinoire de la Garde. Donc, en juin 2016, le syndicat intercommunal pour le maintien de la pratique des sports de glace lance une étude sur l'état de la charpente de la patinoire de la Garde. Les résultats rendus en juillet de la même année sont sans appel et donnent lieu à une décision de fermeture immédiate le 11 juillet en raison d'un danger grave. Les conclusions de l'expert judiciaire précisent que la stabilité et la solidité de l'ouvrage sont compromises. Aucune mesure de sauvetage ne pourra mettre fin au péril imminent. Donc aucune solution provisoire ne pourra préserver la sécurité des biens des usagers. En décembre 2016, la DSP qui permettait la gestion de la structure a été dénoncée. Le montant actuel des travaux à réaliser est estimé à 4 304 503 € hors taxes. Les participations financières sont réparties comme suit. Le CNDS, 500 000 euros. Le CRET, 600 000. Le conseil départemental, 500 000. Une prime NJ a été accordée à 6 164. Et la participation des communes membres, l'Eurovest, 23 400. Le Pradé, 131 550 euros. La Garde, 317 550. Toulon, 1 027 500 euros. Et les fonds propres du syndicat, 1 198 339 €. Une étude d'impact a été réalisée conformément à la loi NOTRe. Cette étude est jointe à la présente note. Donc, il est demandé au conseil municipal d'adopter l'octroi d'une subvention d'investissement de 131 550 euros pour la reconstruction de la patinoire de la Garde et d'autoriser M. le maire à faire signer tous les actes inhérents à cette décision. Je vous remercie.
Merci Agnès. Avez-vous des questions, M. Meurier, je vous en prie.
Oui, fonds propres. En fait, il est indiqué vente d'une parcelle ou emprunt pour 1 200 000. La question, c'est est-ce que c'est une vente d'une parcelle ou bien est-ce que c'est un emprunt?
Il est fort possible que ce soit les deux.
Si, S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer. Monsieur Fior, quand vous voulez, je peux m'attendre aussi à ce que vous ne posiez pas de questions. Ça pourrait arriver. C'est pour ça que je n'ai pas levé la main. Je pensais que vous n'aviez pas de questions à poser. Ce qui m'étonnait un peu sur une délibération pareille, je ne vous le cache pas.
Je vous rassure. 131 000 euros, j'aurais aimé savoir comment on est arrivé à ce montant-là. Déjà, dans un premier temps.
Chaque commune membre détient un certain nombre de parts dans le syndicat. Voilà, tout simplement. Donc, je vous les signale si vous avez besoin. Toulon détient 50 voix, la Garde 24, le Pradé 16 et le Revest 100, 10. Excusez-moi. Voilà. En pourcentage, je vous les donne aussi. C'est relatif. Et donc la participation est relative.
Monsieur,
merci pour, merci pour votre réponse. C'était pas une
merci. Merci. Denis, monsieur Durand, vous voulez poser une question aussi?
Merci. C'est une bonne nouvelle de retrouver la patinoire. Est-ce qu'on a un peu plus de visibilité quant aux travaux? Parce que du coup, hein. Merci.
Alors, les travaux sont conséquents. Hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux vous faire un petit bilan de ce qui a déjà été produit. Après, si vous voulez toute la liste, je peux. Mais c'est quand même assez conséquent. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc, la dépose de la charpente, la couverture est totalement faite, y compris les arcs enlevés. Vous pouvez le voir quand vous passez devant. Bien sûr, en amont, le désamiantage a été totalement fini, ce qui veut dire que tout ce qui est dépose, mi-octobre, tout est réglé. Voilà. On a déposé aussi tous les sols en caoutchouc à l'intérieur. On a commencé à refaire toutes les reprises béton par rapport à la corrosion de toutes les armatures. Donc il y a eu de la corrosion sur tout le béton armé un peu de partout, y compris fondation, dalles. Le mur de soutènement de la façade nord a été coulé. On a refait aussi le mur de clôture avec les voisins sur le nord. On est en train de faire la rampe d'accès PMR devant l'entrée principale. La semaine prochaine, on démolit le plancher de la galerie technique pour refaire, puisqu'il y a complètement une corrosion qui est assez importante. Voilà, là on en est à ce stade-là. Livraison sur septembre, reprise pour les clubs, septembre 2020. Livraison chantier juin, levée des réserves juillet et remise, voilà.
Merci. La gestion de cet équipement, une fois que les travaux seront réalisés, puisque là c'est de l'argent public, bon, accessoirement les demandes de subvention, normalement ça s'instruit avant de débuter les travaux. Normalement, mais bon, très bien. Que ce bâtiment sera construit avec de l'argent public, la gestion de ce bâtiment sera, j'ai cru lire dans la délibération qu'il y aura une délégation de service public, mais la manière dont est présentée la délibération, on a presque l'impression que le délégataire a déjà choisi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment le syndicat va gérer
À ce jour, aucune décision n'a été prise. Je pense qu'on lancera un audit justement pour savoir quelle est la solution la plus efficace pour assurer la gestion de cette patinoire. Effectivement, dans la délibération, il est noté qu'une future DSP, mais au jour d'aujourd'hui, rien n'a été décidé. Voilà.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Question numéro 6, Valérie Rialan, ça concerne le règlement intérieur pour la location près des salles municipales.
Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Donc il s'agit d'adopter un nouveau règlement de mise à disposition des salles municipales afin d'établir des règles applicables lors de la mise à disposition, par exemple pour les associations, et de garantir les meilleures conditions de gestion de ce lieu. Voilà, je vous demande de bien vouloir en délibérer.
Merci. Monsieur Fior, une question, allez-y.
On n'avait pas tout à fait la même lecture, parce que moi j'ai cru comprendre que c'était un règlement intérieur spécifique pour les élections municipales. Alors bien sûr, on y a mis les associations, mais ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on a été associés en rien du tout, on n'a posé aucune question, on nous donne la règle du jeu pour les élections municipales, tel tarif, telle condition, demander au maire, accuser la réception, le PV, le statut, le machin, le truc. Vous nous simplifiez extrêmement la vie, merci, mais termes de concertation. Je trouve que là encore, c'est une belle preuve de décision unanime dans son coin tout seul. Merci.
Monsieur Fior, on a juste dépoussiéré le vote. C'est exactement la même chose que ce que vous aviez émis dedans, il y a 6 ans. Donc on a repris les termes, donc on n'a pas jugé bon comme c'était les vôtres.
Et je me souviens même qu'à l'époque, vous aviez dit quelque chose qui m'avait interpellé, mais vous avez raison, c'est bien, parce qu'une campagne municipale, ça permet de faire rentrer un peu de sous dans la caisse de la mairie. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Il y a pas mal de listes, si j'ai tout compris, qui vont se présenter. Ça permettra donc de faire rentrer un petit peu de sous dans la commune de Prades, qui seront par ailleurs payés par les personnes qui font des dons, finalement. Vous voyez, je m'associe complètement à votre démarche il y a 6 ans ou 7 ans.
Alors, si vous me permettez de répondre, premièrement, je vous ai dit qu'on aurait voté pour. Deuxièmement, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de concertation, et c'est la vérité. Troisièmement, vous me dites que c'est la même chose. Si c'était la même chose, madame Riola, vous n'auriez pas passé. Vous auriez continué à appliquer le règlement. Là, vous faites un règlement spécial. Et en plus, monsieur le maire a pris un arrêté au mois d'août. Et ce règlement vient conforter l'arrêté qu'il a pris. Alors que vous avez déjà attribué des salles à des candidats. Voilà. Alors même que le règlement, on va le voter aujourd'hui. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on s'abstiendra. Merci.
Alors, je vais quand même vous répondre parce que ça fait plusieurs mois que je suis, plusieurs années même que je suis sur ce règlement. Et il s'agissait juste, il y avait des salles qui étaient plus utilisées. Donc par exemple, le clubhouse du rugby, quoi, enfin des choses comme ça. Donc oui, il fallait le dépoussiérer, mais pas à cause des élections puisqu'on a remis la même chose. Donc,
Bon, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Alors, des abstentions. C'est bon. Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 7, question numéro 8, question numéro 9 et question numéro 10. Ce sera donc Cécile Gomez pour les questions liées aux différents règlements intérieurs. Projet pédagogique, fonctionnement de la crèche. Et puis un projet magnifique sur les aires marines éducatives, complètement en ligne avec le souci permanent de réserver et protéger l'environnement au Pradet.
Donc la délibération numéro 7, il s'agit de l'adoption du règlement de fonctionnement de la ludothèque municipale. Comme vous savez, nous avons décidé la création d'un nouvel équipement à destination des jeunes enfants de la commune, donc une ludothèque au sein du pôle culturel Jean Jaurès. Et en vue de l'ouverture prochaine de cette structure municipale, il convient de définir le règlement de fonctionnement de ce nouveau service. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes du règlement dont vous avez dû prendre connaissance.
Merci Madame Gomez. Monsieur Durand.
Merci Monsieur le maire, Madame Gomez. Différentes questions. Alors, je n'ai peut-être pas tout compris. Les moins de 6 ans sur la commune, vous les quantifiez à combien? Puisque dans ce règlement intérieur-là, vous spécifiez les moins de 6 ans. Volume d'accueil de 15 maximum en temps à l'instant T, si j'ai bien compris.
Pour le projet de mandat, c'était pas la ludothèque.
Si vous en êtes d'accord, je termine. Parce que les trois questions sont liées, comme ça je ne vous interromps pas après. Donc, les moins de 6 ans, le coût des 15 gamins, des 15 enfants, excusez-moi, en même temps. Et le principe d'inscription au préalable, où il faudra prendre rendez-vous, c'est ça, pour venir avec les enfants? Parce que sinon, si j'imagine samedi matin, je viens avec mes enfants, on se retrouve à 30, il y a un site internet, un truc. Merci.
La ludothèque, ce n'est pas le projet du mandat. Par contre, l'utilisation du pôle culturel Jean Jaurès, oui. Donc la ludothèque fait partie, comme vous le savez, du pôle culturel avec la bibliothèque et le conservatoire de musique. Donc la ludothèque, c'est une petite structure qui s'adresse aux plus jeunes enfants. Donc évidemment, l'âge d'accueil des enfants dépend de la taille de la ludothèque. Voilà, donc on a une ludothèque qui fait à peu près 70 mètres carrés et qui est adaptée pour recevoir un public 6 mois à 6 ans. Voilà, certaines grandes ludothèques dans des grandes villes peuvent accueillir des enfants jusqu'à 12 ans par exemple. Donc nous, par rapport à la taille de la ludothèque, qui correspond à la taille de la ville également, taille de la commune. Donc, accueil de 6 mois à 6 ans. Alors, 15 enfants, c'est aussi par rapport à la taille de la ludothèque. Hein, c'est, voilà, par exemple, la ludothèque de la Garde. La ludothèque de la Garde peut accueillir 20 enfants, je pense, notamment. Donc, que 15 enfants. Les enfants restent jouer, certains restent 20 minutes, une demi-heure, maximum une heure. Donc ça permet de faire tourner quand même pas mal d'enfants sur la journée, puisqu'il y a une amplitude d'ouverture de 5h30 par jour, plus le samedi matin. Notre question, c'était sur... Combien d'enfants de moins de 6 ans, bah, alors quand, si on compte les deux maternelles du Pradé, par exemple, hein, qui, les enfants qui vont de 3 à 6 ans, il y a environ 120 enfants à la maternelle Pagnole et 150 enfants à la maternelle Sandro. Voilà. Alors les conditions d'accès, l'accès est libre. Hein, donc les réservations, c'est uniquement pour les assistantes maternelles, pour éviter qu'elles prennent tous les créneaux qui permettent aussi aux familles de venir profiter de la ludothèque. Donc elles ont des réservations à faire au préalable. Et ensuite, l'accès aux familles est libre, bien sûr, dans la limite des places disponibles, sachant que ça va pas mal tourner, vu que le temps de jeu, on estime à peu près une demi-heure.
Une autre question me vient. En même temps, la politique tarifaire, donc c'est 15 euros, peu importe les conditions de ressources, et c'est comme une cotisation comme à la caisse des écoles.
15 euros pour l'année avec un accès illimité.
D'accord, merci.
Simplement une remarque, la ludothèque en soi, c'est un projet sur lequel tout le monde peut se retrouver, la taille, peu importe, je dirais. Par contre, l'amplitude des horaires d'ouverture, ça vous avez complètement la main. Et démarrer votre projet en disant que ça sera fermé une semaine pendant les vacances de Noël, c'est vrai qu'à Noël, les enfants ne jouent pas. Donc ça me paraît très intelligent. Vous pourrez peut-être faire un effort et avoir une ouverture en totalité pendant les vacances de Noël. Voilà la suggestion qu'on peut vous faire.
C'est vrai qu'il n'y a que vous, hein, qui faites des choses très intelligentes, M. Fion, on l'aura bien compris. Ceci dit, évidemment, les horaires, ils ont été réfléchis. Ils ont été réfléchis en concertation avec le fonctionnement aussi, les heures d'ouverture de la bibliothèque et du conservatoire de musique. Là, il faut aussi tenir compte des amplitudes horaires de travail de l'agent qui travaillera à la ludothèque. Donc, effectivement, du mardi au vendredi, 9h30 midi, 15h-18h, et le samedi matin, 9h30-12h. Donc, ce sera... Donc, déjà, c'est un nouveau service qui n'existait pas, donc on crée quand même un service au service des familles. Et ensuite, on s'est concerté, on a fait une harmonisation avec les trois structures. Voilà. Alors, évidemment, c'est une première année d'ouverture, on va voir comment ça fonctionne, ça peut être amené à évoluer selon la fréquentation et les demandes des parents éventuellement.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Pourquoi pas? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 8.
Donc, toujours sur la ludothèque, il s'agit maintenant d'adopter le projet pédagogique.
Il me semble que lors du dernier conseil municipal, vous aviez porté une délibération sur le contrat enfant-jeunesse, me semble-t-il, ou celui d'avant. Voilà. Pourquoi il n'en fait pas référence? Parce que, sauf erreur de ma part, c'est des dépenses, en tout cas, c'est des projets qui peuvent être potentiellement éligibles au schéma de développement et au schéma de développement que la commune est liée avec la caisse d'allocation familiale. Vous le savez, s'il y a des représentants de la CAF, pourquoi on n'en fait pas référence?
Oui, il y a des financements par la CAF selon la fréquentation de la ludothèque, mais là, on parle du projet pédagogique. Là, on est sur le projet pédagogique, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques de la ludothèque. Alors, effectivement, on aura des financements de la CAF par rapport à la fréquentation.
C'est une équipe étonnante. À divers titres.
Ah ben, on a une radiographie aujourd'hui extraordinaire.
J'y pensais même pas. Donc, je vous remercie pour cette présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention encore du Front National. Qui est pour? Merci.
la délibération numéro 9, c'est un avenant au règlement du fonctionnement du multi-accueil Le Jardin des Pitchounes. Et ça concerne une évolution du barème des participations familiales de la part de la CAF. Voilà, donc c'est une mise à jour du règlement par rapport à l'évolution des barèmes de la CAF.
Question ? Monsieur Fiore.
Ah oui.
C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut même plus lever la main, je vous donne la parole systématiquement.
Si vous voulez. Excusez-moi, j'ai rien compris à la présentation de la délibération. Je voudrais savoir ce qu'on vote. Vous savez, dans un conseil, il y a une présentation. Il faut dire les choses à peu près correctement. Il faut dire un peu la vérité aux gens. Donc, j'aimerais savoir ce qu'on vote.
Alors, bien sûr, Cécile Gomez va tout l'expliquer, mais ce que j'avais dit, c'est un peu de dignité. Il n'y a pas de mensonge, il y a de la transparence qui est là totale. L'heure du jour est disponible en ligne. Alors, vous avez raison, on va passer du temps. Il n'y a aucun problème, au contraire. D'abord, je suis très content qu'il y ait beaucoup de prélétons aujourd'hui qui peuvent écouter tout ce qu'ils entendent aujourd'hui. C'est très enrichissant. Et sur cette question en particulier, bien sûr, Cécile Gomez va expliquer pour l'ensemble des prélétaines et des prélétants qui sont ici présents et pour Vin Matin qui se fera le relais d'information, toutes les questions qui pourraient se poser.
Donc c'est la CAF qui fixe le taux de participation familiale par heure facturé en accueil collectif. Donc la CAF, par sa circulaire du 5 juin 2019, hein, numéro 2019-005, nous informe que nous devons mettre nos règlements à jour en indiquant aux familles le nouveau barème appliqué par la CAF à partir du 1er septembre. Vous devez savoir de quoi il s'agit, puisque lors du dernier conseil municipal du 17 juin, vous aviez d'ailleurs été étonné que nous l'ayons pas mis à jour alors que la circulaire est passée le 5. Donc c'est fait.
Excusez-moi, ça se traduit par une diminution du coût de la crèche ou une augmentation? Quel est le pourcentage d'augmentation? Quel est le prix pour la crèche, tarif horaire? Je ne sais pas, moi, c'est votre sujet, c'est vous qui avez la délégation, c'est vous qui portez ce sujet-là, vous nous dites rien.
Ce que je peux dire déjà, c'est que nous sommes dans l'obligation d'appliquer les barèmes tarifaires de la CAF. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons la possibilité de proposer des majorations, ce que nous refusons à faire. Nous restons sur le barème imposé par la CAF. Donc c'est des majorations très minimes. Par exemple, pour un enfant, le taux horaire, c'est 0,06%. Ça passe à 0,0605%. Donc c'est très mineur. C'est imposé par la CAF.
Merci. Donc, j'arrive les familles. Puisque vous ne voulez pas le dire, je vais le dire à votre place. Hein, comme ça, ce sera plus simple. Alors, il s'agit d'une augmentation des tarifs de la crèche de 0,8%. Contrairement à ce que vous avez indiqué, Madame Gomez, la circulaire qui prévoit cette augmentation de tarifs est sortie, certes, en juin. Vous auriez pu, comme je vous l'avais fait remarquer lors du dernier conseil, en tenir compte dans votre règlement intérieur. Mais depuis, est intervenue une lettre de la CAF, du département, sur volonté de la CNAF, donc de la Caisse nationale de France, qui vous permet, Madame Gomez, sur une simple décision, qui vous permet de reporter ce tarif, cette augmentation de tarif, qui vous permet de la reporter à partir du 1er novembre 2019. Donc, nous allons voter cette délibération dans la mesure où vous engagez à n'appliquer ce tarif-là qu'à partir du 1er novembre 2019 et non au 1er septembre comme vous proposez de le faire. Vous avez cette possibilité tout à fait juridique et tout à fait légale. Je ne vois pas pourquoi vous augmenteriez les tarifs de la crèche alors que vous n'en êtes pas obligé, alors même que d'une part vous ne dites pas que vous les augmentez et d'autre part vous dites que c'est la faute de l'État. Donc l'État vous permet de ne le faire qu'à partir du 1er novembre. Pourquoi vous le votez au 1er septembre? Voilà. Ensuite, quand on présente une délibération, la moindre des choses, c'est pas de jouer avec les pourcentages en disant on passe de 0,600 à 0,605, c'est minime. C'est pas vrai ça. Ça c'est une présentation qui est pas juste. La vérité c'est donnez-nous le tarif minimum d'horaire à la crèche et donnez-nous le plafond maximum d'horaire à la crèche. Et là les gens se rendront vite compte de l'amplitude. quel est le montant en plafond on paye à la crèche. Merci.
D'accord, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? On répond qu'on a prévu une... La réponse, c'est qu'on a prévu... On passe une délibération, quoi, pas changer en cours de route. On verra, on va discuter du... Est-ce que vous pouvez... Le principe de base, chacun s'exprime, on laisse chacun s'exprimer jusqu'au bout. On n'interrompt pas les gens, c'est une question de correction, de bienséance, on met jusqu'au bout. Donc, on va étudier ce que vous venez de dire. Si vous avez raison, peut-être on sera amené à reporter au 1er novembre, pourquoi pas. Vous nous donnez des éléments qui sont peut-être nouveaux, qu'on ne connaissait pas, c'est s'il va prendre la parole. Et pourquoi pas reporter au 1er novembre, c'est pas ça qui va pénaliser les finances de la commune. Simplement, on va voter la délibération en l'état, et si on voit qu'il y a une possibilité de reporter au 1er novembre 2019, pourquoi pas. Voilà ma réponse.
Par contre,
Madame Gomez va répondre déjà.
Donc déjà, je répète que c'est pas nous qui augmentons les tarifs de la crèche, mais que c'est l'État qui nous impose ces tarifications. Autre chose, on a choisi de fournir les couches à partir de cette année sans qu'il y ait de répercussions sur les tarifs des familles. Donc ça va être un bénéfice pour les familles qui n'auront plus à acheter les couches et qui seront fournies par la crèche. Et autre chose aussi, l'État, quelques trucs de bien, ont augmenté les plafonds pour les familles. Donc certaines familles vont baisser d'un cran dans la tarification. Donc ce sera pour certaines familles même plus intéressant que l'année dernière.
Merci, je prends acte de ces données et c'est très bien. Sur les couches, si vous financez la couche, vous aurez les couches, vous aurez une dotation supplémentaire par la CAF. Donc il faut dire les choses correctement. C'est normal que les parents ne payent pas si vous obtenez des subventions en plus par cette prestation sociale unique. On est d'accord? Bon, sur le monsieur le maire, vous me dites au prochain conseil municipal si on changera au 1er novembre. Non, c'est maintenant qu'il faut le prendre en compte. C'est maintenant que vous allez facturer les gens. Vous n'allez pas facturer les prestations de la crèche de septembre au mois de janvier ou février l'année prochaine. On est d'accord? Donc le tarif, il s'applique à partir du moment où vous le votez. Donc là, vous nous proposez de le voter au 1er septembre 2019. Vous avez la possibilité de déroger jusqu'au 1er novembre 2019. Ce n'est pas difficile. Vous dites oui, c'est réglé, et puis voilà, on vote tous cette délibération.
Alors, on n'a pas eu connaissance du courrier auquel vous faites allusion. Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort. On fait tous des erreurs dans la vie. Donc certainement, ce courrier existe, vous avez peut-être raison, mais avant, on prépare une délibération, les services pour préparer une délibération. On va la voter en l'état. Si on s'aperçoit qu'il y a une possibilité de déroger de 2 mois, on le fera. Mais donc, laissez-nous prendre connaissance de ce courrier, voir s'il existe, dans quel contexte c'est possible ou pas possible. Donc, c'est pas non, c'est pas oui. Si on regarde, vous savez, depuis le début du mandat, j'ai toujours, toutes les décisions que j'ai prises, je les prends très rarement dans l'urgence, pour ceux qui me connaissent bien, ce sont toujours des décisions qui sont en écoute avec la population, en écoute avec les prédétants, toujours des décisions qui se prennent avec le temps. Je consulte mon équipe, on en discute, on les met sur la table. Et derrière, on prend des décisions, mais jamais dans la précipitation, toujours dans le calme. Ça en fait partie. Alors, je propose... Mais venez avec nous, il n'y a pas de problème, sauf au moins quelqu'un qui va soutenir ma candidature. Bon, allez, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 10. Toujours Cécile Gomez. Ce sont des subventions pour un superbe projet avec les écoles en défense de l'environnement dont on promeut en permanence l'intérêt pour notre belle ville et notre belle nation, la France.
Donc les aires marines éducatives, les AME, ont pour objectif de mettre les élèves au cœur de dispositifs en faveur de la protection du milieu marin dans le cadre de l'éducation au développement durable. C'est une démarche citoyenne où les élèves deviennent acteurs de la gestion participative d'un bien commun. Le parc national de Port-Cros a contacté l'éducation nationale pour la mise en place de ce projet, grâce notamment à la convention signée depuis 2016 par la commune du Pradé avec le parc national de Port-Cros. La signature d'une convention entre l'Académie de Nice et le parc national de Port-Cros permet la mise à disposition de nombreux moyens, comme des animations des agents du parc, de la documentation ou la prise en charge d'une journée sur Porquerolles. Pour les classes, il s'agit de choisir et délimiter une zone littorale afin d'apprendre à la connaître pour la suite, pouvoir mieux la protéger. Ce projet pédagogique se fera sur toute une année, il sera reconduit pendant 3 ans et permettra la production de documents qui serviront à obtenir une labellisation de cette zone par l'Agence française de biodiversité, qui est un label, bien entendu, valorisant pour le Pradé. Les deux écoles élémentaires du Pradé ont déposé en avril leur candidature auprès de cette agence qui l'a acceptée. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder une subvention de 2000 euros, donc 1000 euros par école, renouvelable pour chacune des trois années que dure ce projet et d'autoriser M. le maire à signer tous les actes inhérents.
Merci. Est-ce qu'il y a une question, M. Fioralesi ?
Bien sûr que nous sommes pour. On voudrait juste comprendre à qui on verse les 1000 euros.
À chaque coopérative scolaire pour qu'elle puisse les utiliser.
Donc à la coopérative scolaire.
Oui.
Ce serait bien de le mettre dans votre délibération.
On a dit à l'école, donc on précise que c'est à la coopérative scolaire de l'école.
Moi, l'école, je crois que c'est la mairie. Hein.
L'école, c'est pas la mairie.
Ah, l'école, c'est pas la mairie. C'est une entité.
Les locaux, les bâtiments. L'école, forcément, c'est la coopérative scolaire, bien sûr.
Ah, d'accord, c'est la coopérative. Très bien. Ben, mettez-le si M. le maire veut bien le rajouter. Que...
Merci, M. Fior, pour cette intervention. En tout cas, on peut souligner l'engagement des communautés éducatives, notamment du maître qui a proposé ce projet. C'est un beau projet qui plaît beaucoup aux enfants, aux familles. Et bien sûr, le parc de Port-Croix est complètement partie prenante dans cette belle réalisation qu'on espère très productive pour les enfants. Voilà, donc on va passer au vote. M. Marie, allez-y.
Est-ce que vous avez envisagé d'étendre cette subvention à l'école Sainte-Bernadette?
Alors, comme je viens d'expliquer, en fait, c'était sur proposition du parc national et d'un des maîtres qui a relayé. Tout part, en fait, de la volonté des... On ne peut pas imposer ça à une quelconque école. Ça part de la volonté du parc national, Port-Croix, qui est complètement partie prenante, mais surtout de la volonté d'un ou deux ou trois maîtresses ou directrices d'école qui veulent pousser. Donc, aujourd'hui, la demande, on a une demande en discutant avec... une personne dans une école qui a souhaité s'emparer de cette possibilité de le faire. Donc, si l'école Saint-Manette ou Pagnol vient nous voir avec un projet, on les fera adhérer. Nous, au contraire, on est extrêmement moteur sur ce type de questions. Mais ça part de la communauté éducative. On leur expose des choses, on leur dit voilà ce qui serait possible de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui ne vous intéresse pas? Voilà. Je ne veux pas dire que ça ne les intéresse pas. Il y en a qui ont peut-être d'autres projets. C'est celui sur lequel ils souhaitent en tout cas s'investir plus fortement peut-être cette année. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Questions numéro 11 et 12, c'est donc votre humble serviteur qui va vous le présenter. Ça concerne sur les deux une petite rectification, vous savez qu'on est passé en métropole, tout le monde s'en souvient. Donc on est passé en métropole pour donner encore plus de force à notre territoire. Et j'œuvre au sein de la majorité métropolitaine pour pousser tous les projets de la métropole. D'ailleurs on voit tous ces projets qui avancent encore plus vite, avec encore plus de vigueur. Donc on se réunit avec les services du département, avec les services de la métropole pour faire avancer tous ces projets de voirie. Donc on voit qu'il y a la force, il y a du financement, le LEAP, Berlioz, le rond-point de la Baillette, l'entrée sur la rue Gueule qui se fait derrière l'espace des Arts. Tout ça sont des projets qu'on aurait pu certainement réaliser. La mairie aurait pu le réaliser, ça aurait peut-être pris un peu plus de temps pour des raisons de ressources humaines, pour des raisons de financement. La métropole nous permet donc d'aller plus vite sur tous ces projets qui sont des projets structurants. Donc la métropole a aidé notamment sur tous ces sujets. Pour accompagner le passage en métropole, il y a des transferts bien sûr qui sont faits à la fois de personnel, de matériel et de services. Donc il y avait des règles qui avaient été établies au travers de la CLECT, qui est en fait le dispositif qui a été retenu, qui est obligatoire d'ailleurs, qui a été retenu pour transférer les compétences à la métropole. Donc, dans ce cadre, il y avait des calculs qui avaient été effectués, qui portaient sur quelques millions d'euros. Et là, on parle d'un ajustement assez modeste, puisqu'on parle dans un cas, en gros, de 5% de l'ETP et 750 heures d'agent du patrimoine. Et dans l'autre, sur la convention numéro 12, on parle, en gros, de 320 heures à transférer. Donc, c'est vraiment un changement qui est minime, qui n'aura aucun incidence sur les comptes de la commune, parce que, de toute façon, c'est neutralisé. C'est complètement neutralisé, ce qui est ascendant ou descendant. On va débiter d'un côté, créditer de l'autre. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de changement pour la commune. Et ce sont, je le répète, ce sont des ajustements mineurs. Avez-vous des questions sur la question numéro 11 et même sur la question numéro 12, puisqu'il s'agit en fait exactement des mêmes? Je vous propose de poser des questions sur ces deux délibérations et on les votera à la suite l'une de l'autre. Pas de questions? Monsieur Fior.
Juste une remarque. Remboursement des frais par la ville, je ne crois pas que ça soit ça, c'est les remboursements des frais de la ville.
Nous rectifierons. Pas d'autres questions? Donc, qui est contre? Vous êtes contre, monsieur Burry, d'accord, vous êtes contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Sur la 11, hein, merci. Pareil sur la 12, donc qui est contre? Toujours monsieur Meurier. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 13, monsieur Plane, ça concerne une convention reliée au réseau TETRA.
Permettra de mutualiser certains points eau et de réduire les coûts d'utilisation de sites privés, de réduire le nombre de porteuses et les redevances radioélectriques correspondantes, d'optimiser les coûts de fourniture d'équipement, de maintenance et de supervision du réseau, de disposer d'une meilleure sécurisation du réseau et d'une couverture radio optimisée, de permettre signataire de la présente convention de commander les fournitures et les prestations nécessaires pour leurs propres besoins. Les membres du groupement ont désigné la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée en qualité de coordinateur. Ce dernier est chargé de mener toute la procédure de passation et d'une manière générale de prendre en charge tout acte nécessaire à l'exercice de ses missions. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter l'exposé qui précède, d'approuver la convention de groupement de commandes que vous avez tous certainement lue, d'autoriser M. le maire Hervé Stassinos en qualité de pouvoir adjudicateur de la ville du Pradé à signer la convention correspondante, et tout acte ou tout document s'y rapportant.
Merci. Pas de questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention de M. Meurier. Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 14, donc, va être portée par un membre de la majorité municipale, M. Chambier, avec qui on a travaillé sur cette question en toute transparence, en toute clarté et en pleine synchronisation. M. Chambier, allez-y, je vous en prie. C'est vrai, c'est la prochaine, Denis. Non, mais en plus, Denis, c'est un des élus que j'aime bien, il le sait, je l'ai déjà dit.
Merci pour les autres.
Je vous adore, monsieur Fior, je vous adore, vous êtes différent. Si vous laissez Jean-Michel parler, c'est lui qui va vous le présenter.
Si vous voulez, je peux l'apporter. Hein.
Franchement, monsieur Fior, c'est quoi? Non, c'est quoi? Franchement, on a passé 5 bonnes années ensemble, on ne va pas tout gâcher avec une délibération. Vous auriez peut-être le risque de mal porter. Non, pour vous, dans votre propre, pour votre propre sécurité, je préfère ne pas prendre le risque.
Le sort des avances forfaitaires pratiquées dans le cadre d'un marché transféré à la métropole. Pour donner suite au changement du statut de TPM en métropole et au transfert des compétences relevant du budget général, un grand nombre de marchés publics a été transféré. Dans le cadre de la problématique du remboursement des avances forfaitaires qui ont été pratiquées par la commune antérieurement à la date du transfert, la métropole a interrogé les services de la DGFiP pour connaître le sort qu'il convient de réserver au traitement comptable de ces données restées dans les budgets communaux. La DGFiP conseille aux communes de solder leurs comptes par émission d'un titre de recette à l'encontre de la métropole qui poursuit l'exécution des marchés et qui rembourse les communes en retraçant l'opération par un mandat sur son propre compte. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter l'exposé qui précède, d'approuver la passation des écritures comptables pour les avances forfaitaires, d'autoriser M. Hervé Sassinos, en qualité de pouvoir adjudicateur de la ville, du Pradet, à signer tout document s'y rapportant.
Merci, M. Perratou. Donc, on va passer à la question de M. Fior.
Merci, M. le maire. J'ai bien écouté la délibération. J'aurais quelques remarques à faire sur la délibération, mais le but de cette délibération, c'est de vous autoriser à passer des écritures comptables. Et vous ne nous donnez pas lesquelles. Et de voter. Si vous nous dites autorisez-moi à passer toutes les écritures comptables que je veux, je ne vous fais pas suffisamment confiance, M. le maire.
Là, vous me blessez, M. Fior. Je pense que ce sont des écritures comptables qui sont comme en rapport avec la délibération, je dirais a priori.
Oui, lesquelles, quel montant, quel compte, enfin ce que vous voulez. Quoi,
on pourra vous adresser une liste si vous voulez. Mais M. Perratou va vous répondre.
Je vous donne un exemple.
M. Fior, si M. Perratou veut donner des exemples, il va vous donner un exemple, laissez-les exprimer. Laissez tout le monde s'exprimer.
Pour la mairie du Pradet, la commune, titulaire FH pour les voiries, sur lequel on a fait une avance forfaitaire de 18 000 euros en 2017. Là, la DGFiP nous dit, le comptable, suite à la délibération, d'émettre un titre de recette à l'encontre d'MTPM sur le compte 238 pour un montant de 18 000 euros.
Ça en fait pour la mairie du Pradet, c'est le seul.
Bon, alors je vais vous faire quelques remarques quand même parce que. Ah, c'est le seul. Mais pourquoi vous l'avez pas mis dans la délibération alors?
Parce qu'on pensait pas que ça vous poserait autant de problèmes en fait, c'est pour ça.
Ah non, mais oui.
C'est un problème très grave.
Bon, accessoirement, monsieur le maire, les avances forfaitaires, c'est une formulation qui n'existe plus depuis 2006. Bon, la délibération, elle commence comme ça.
Voilà. Le principal, c'est est-ce que nous avons été suffisamment clairs sur le risque financier? On vous a dit qu'il n'y en a pas, en fait. On vous a informé sur le montant. On vous a tout expliqué. Est-ce que les informations vous suffisent?
J'abandonne.
Oh non! Vous allez nous manquer. Allez, on va voter tranquillement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie. Et maintenant, je cède donc, comme prévu, la parole à M. Chambly pour la délibération.
Merci, M. le maire.
Un plaisir, cher ami.
Autorisation d'un transfert du marché public correspondant aux compétences transférées à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Les compétences gérées jusqu'ici par la commune du Pradet le sont désormais par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. À titre transitoire et pour permettre la mise en place administrative et technique de la nouvelle organisation de la métropole, une convention de gestion transitoire a été conclue jusqu'au 31 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, MTPM doit prendre la gestion pleine et entière des prérogatives administratives des compétences transférées. Parmi ces compétences, on peut citer la gestion des plages, la valorisation des espaces naturels, etc. À ce titre, le marché public de prestation de services pour les nettoyages des plages ainsi que de la voirie lors du marché hebdomadaire le vendredi, conclué par la ville du Pradet, doit être transféré intégralement, car ce dernier est mis en œuvre sur des espaces publics ou des équipements qui sont gérés par la métropole. Suite à une erreur matérielle lors de la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2018, le dit marché avait fait l'objet d'un transfert partiel. À compter du 1er janvier 2019, la gestion du marché et le paiement des prestations correspondant au marché sera effectué par la métropole TPM, dont le siège social est fixé, etc. en lieu et place de la ville du Pradé. Il est proposé au conseil municipal d'adopter l'exposé qui précède, d'approuver la passation de l'avenant de transfert, d'autoriser M. le maire en qualité de pouvoir indicateur de la ville du Pradé à signer l'avenant correspondant et tout acte et tout document s'y reportant.
Avez-vous des questions? Pas de questions. Une question.
On regrette quasiment un an de décalage entre le moment où vous vous rendez compte d'une erreur et le moment où vous la régularisez. Mais bon, c'est pas dramatique, donc pas de sujet. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle quand même. Si on est bien conscient qu'on a transféré les plages à Toulon-Provence Méditerranée, est-ce qu'on doit déduire de cette délibération qu'on a aussi transféré le parking de l'armée d'Afrique et le parking de la Poste? À la fin de votre mandat, vous puissiez faire une réunion sur tout ce que vous avez transféré à Toulon-Provence Méditerranée, parce que je n'ai pas le sentiment qu'on ait eu la moindre information là-dessus. Donc, je prends acte qu'on a transféré ces deux parkings également. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Merci. Question numéro 16, Jean-François Plane. Ça concerne la création de postes de vacataires pour la traversée des écoles.
Oui, donc création de 5 postes de vacataires pour la traversée des écoles. Vu le code général des collectivités, considérant la nécessité de sécuriser la traversée des écoles de la commune, considérant les nombreuses missions confiées aux agents de la police municipale, qui ne peuvent de ce fait être mobilisés 4 fois par jour devant les établissements scolaires, la commune souhaite donc créer 5 postes de vacataires, 2 par école publique et 1 pour l'école Sainte-Bernadette, qui interviendront donc, évidemment, 2 heures 4 fois par semaine hors vacances scolaires. Donc, si vous voulez les horaires, je peux vous les donner. Soit environ 288 heures de travail, monsieur Murier, par an, payé au SMIC horaire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la création de 5 postes de vacataires, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes subséquents, à dire que les crédits inhérents à cette décision sont disponibles au budget municipal.
Si monsieur Meurier, allez-y, après ce sera monsieur Fior pour poser une deuxième question.
Oui, pourquoi pas directement un recrutement d'un agent de police municipale qui pourra être redéployé sur une autre opération lorsqu'il n'y aura pas école par exemple.
Alors moi je suis favorable, monsieur Meurier. Solution pour moi. Ce n'est pas le même coup non plus. Voilà. Est-ce que la réponse vous convient?
Monsieur Fior.
Monsieur Plan, merci. Qu'est-ce qui motive ce changement de politique, entre guillemets, puisque, si j'ai bien compris, durant ce mandat, on a quand même recruté un certain nombre de policiers municipaux. Si j'ai bien compris, le travail qu'ils effectuaient jusqu'à présent était tout à fait remarquable. Qu'est-ce qui justifie, à 5 mois des élections, qu'on recrute 5 personnes?
Alors, comment vous dire? Ça n'a vraiment rien de politique. Si c'est la question que vous posez, ça n'a vraiment rien de politique. C'est simplement un problème qui malheureusement va se rencontrer très certainement couramment. À partir du moment où moi j'ai le personnel de la police municipale qui est engagé sur les écoles, il est très difficile pour eux de partir sur une intervention. Alors, ou s'ils partent, de toute façon, ils laissent l'endroit d'une manière comme d'une autre sans protection pour les enfants. C'est une réflexion qui a été menée parce qu'on s'est rendu compte que c'était malheureusement, des fois, à ce moment-là, qu'on rencontrait des problèmes, des accidents ou autres. Donc, on a décidé, effectivement,
renforcer un petit peu au niveau des passages protégés, de manière à avoir la possibilité d'avoir en permanence quelqu'un de présent. Voilà.
Monsieur Meurier.
Oui, puisqu'on a abordé la question de la police municipale, où est-ce qu'on en est du nouveau poste de police?
Alors, le nouveau poste de police, c'est en cours. Bon, on a des petits soucis, je ne vous le cache pas, dans la mesure où le bureau d'études a fait faillite, donc ça, on n'y peut rien. Donc, on est tout.
Monsieur Fiol.
Merci des réponses apportées, Monsieur Plan. On vous suivra sur cette délibération. Permettez-moi une aparté, puisqu'on parle de création de postes, de vacataires. Je voudrais quand même revenir sur la situation d'un de nos agents, qui n'est pas de la police municipale, mais qui est un de nos agents, qui s'appelle Monsieur Bruno Carlier, qu'on continue à payer à ne rien faire, à recruter des vacataires pendant la saison d'été pour le remplacer. Et donc, j'aimerais encore une fois que M. le maire prenne conscience que l'argent public, ce n'est pas n'importe quoi, et que payer un fonctionnaire en le privant de son emploi pour rien faire et recruter des vacataires à sa place, ce n'est pas correct. Donc, M. Plan, on vous suit, on crée ces 5 postes. On espère que la police municipale pourra se consacrer à ses vraies missions qui sont très importantes. Et je m'en arrêterai là, mais je ne désespère pas avoir un jour une réponse de M. le maire sur ce sujet-là. Ce n'est pas normal de payer un fonctionnaire, de le priver de son emploi et de ne pas lui rendre la mission qui est la sienne. Merci.
Merci. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie pour cette dernière délibération. Il y a décision en communication. Et cette semaine, c'est une semaine un peu chargée, parce que la semaine de l'âge d'or qui débute ce soir, je vous invite tous d'ailleurs à vous rendre à l'inauguration de la semaine de l'âge d'or ce soir, et surtout, ou en complément, à la fin de la semaine, on aura la deuxième édition de notre Mondial de la Moule, événement internationalement connu, sur lequel on attend pas mal de monde, parce qu'on a à peu près 1500 partages sur Facebook et 10 000 likes, donc on attend beaucoup, beaucoup de monde. Monsieur Meurier, vous souhaitez poser une question avant que je lève la séance? Allez-y.
Oui, au début de la séance... On a convenu que vous me répondriez sur la loi SRU, merci.
Tout à fait. Donc, répondons, j'ai tous pris connaissance du communiqué de presse, sauf donc les Pradétal et Pradétan en présent, mais je vais vous le lire rapidement, comme ça tout le monde sera informé du communiqué de presse, ou en tout cas de la prise d'opposition de M. Meurier. Donc, lors de l'inauguration de 53 nouveaux logements sociaux dans le quartier de la Baillette au Pradet, M. Michel Bonus, conseiller départemental adjoint maire Toulon et président du conseil d'administration du bailleur social Phare Habitat, a déclaré que notre commune est un acteur idéal dans le cadre de la loi SRU, article de Varmatin du 4 septembre. Cette loi contraint les communes à atteindre 25% de logements sociaux sans aucune considération du foncier disponible ni des particularités communales. Par ailleurs, je m'étonne que ni le maire, ni Hervé Stassino, c'est le même en fait, hein, présent lors de cette inauguration, ni aucun membre de l'équipe municipale n'ait réagi au propos de M. Bonus. Je rappelle que depuis la prise de son mandat, la prise de fonction en fait, de M. Stassinos en 2014, il n'a cessé de critiquer les effets pervers de cette loi inadaptée dans notre commune classée parc national de Porquerolles. Comme de très nombreux prédétants, je ne comprends pas la position à géométrie variable de notre maire sur cette question et demande une clarification officielle de sa part dans les médias. Ça tombe bien que vous en parliez, puisque la majorité métropolitaine, conduite par Hubert Falco, a justement organisé une conférence de presse lundi dernier, je pense, il y a une semaine, à l'issue du bureau métropolitain. Donc on a organisé une conférence de presse, il y avait Varmatin, France Bleu Provence, il y avait La Marseillaise qui apparemment a déjà fait un article. Varmatin n'a pas encore fait l'article, mais je pense que ça devrait pas. J'imagine qu'ils en profitent pour faire un dossier spécial logement métropole ou logement Var. Donc il y a certainement un article qui va paraître dans Varmatin dans les jours ou semaines qui viennent. Mais si vous êtes très très impatient de savoir ce qu'on en pense, je vous conseille d'aller sur Facebook, il y a pas mal d'extraits qui ont été pris, parce qu'il y a un reportage notamment, un reportage sur Varazur de la conférence de presse, il y a l'article de la Marseillaise qui est paru, je pense qu'il y a 3-4 jours, et l'article de Martin, de Varmatin qui va paraître dans les jours qui viennent. Donc, pour la partie de votre question sur la conférence de presse, c'est fait. Je peux vous parler du contenu, si vous le souhaitez, si vous insistez un peu, puisque vous insistez, je vais en parler. Donc l'idée, bah, écoutez, je m'inscris un peu dans ce que vous dites, je vais faire attention quand même à ce que je dis, mais je pense qu'effectivement, je n'ai pas changé. En 5 ans, 6 ans, apparemment certaines personnes le pensent, mais je n'ai pas changé. Moi, je suis clair, je suis transparent, je suis fidèle à des convictions, j'ai été élu aussi là-dessus, sur un programme de non-urbanisation massive. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Peut-être on peut me reprocher un peu ma franchise des fois. Des fois un petit peu, comment dire, un peu direct, mais c'est mon style. C'est aussi ça qu'on est chef d'équipe, il faut aussi accepter des fois d'être un peu dur avec les gens, prendre des positions un petit peu dures. Et concernant la loi SRU en particulier, on a une position qui n'a pas évolué depuis 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé simplement pendant 6 ans? Il y a eu la première partie de mandat où on discutait un peu avec l'État, un peu dans la concertation, mais enfin surtout la contrainte, et puis après il y a l'arrivée de l'arrêté de carence. Donc ce qui a été dit en substance à la conférence de presse, c'est que sur les 12 communes de la métropole, il y a 4 communes aujourd'hui qui sont en carence, dont le Pradet, mais même les communes qui ne sont pas en carence, je pense à la ville de Toulon paye cette année 1,3 million de pénalités SRU, parce qu'ils ont perdu la DSU il y a 2 ans, enfin bref, c'est un système un peu compliqué. Donc tous les maires ont parlé d'une même voix autour du président Falco, et on a tous affiché plus qu'il y a un désaccord par rapport à la loi aujourd'hui qui est portée par le... Alors c'est pas une loi nouvelle, hein, là, il y a eu la loi du flot, Élan, Allure, il y a eu toute une succession de lois qui se sont empilées pour essayer de répondre à une demande qui est légitime. Alors personne autour de cette table et personne dans la salle, et je pense que personne au Pradet, ne conteste la nécessité d'aider les publics les plus en difficulté. Et c'est ce qu'on fait. Moi, lors de mes permanences, je reçois souvent des gens qui viennent pour me dire, tiens, nous, j'ai besoin d'un logement social, j'ai besoin d'être aidé au niveau social. C'est mes permanences, je ne sais pas qu'elles sont dédiées à ça, mais il y a beaucoup de demandes. Les gens sont en vraie souffrance par rapport à ça. Donc, on est conscient de cette nécessité d'aider les publics les plus en difficulté. Le maire en premier, on est conscient. Je suis très investi sur cette délégation sociale. Mais on a un problème aussi qui est le foncier au Pradet. On a un vrai problème de foncier qui n'est pas disponible. Donc, il faut à la fois préserver les ressources naturelles, il faut préserver l'agriculture, il faut préserver un certain nombre de... On est adhérent au parc national de Porquerolles, il faut aussi laisser du foncier disponible pour se laisser développer l'activité économique, il faut laisser du foncier disponible pour accueillir les touristes qui viennent en nombre dans le département du Var et de plus en plus au Pradet. Donc on a ce problème de disponibilité du foncier. On est en une commune littorale, impactée par le parc de Porquerolles, donc chaque commune a ses difficultés, on peut parler de l'accro, de pas mal de communes, chacun a ses spécificités. Donc ce qu'on a demandé nous, au gouvernement, c'est d'avoir un traitement spécifique pour nos communes. Parce qu'aujourd'hui, on a 8% au Pradet, tout le monde sait, mais même les services de la préfecture le savent, on ne pourra jamais atteindre 25% à l'horizon 2025, c'est impossible. Impossible. On n'a pas ni les ressources financières disponibles, ni l'État d'ailleurs, ni le foncier disponible. D'ailleurs, il y a une ville dans la région parisienne qui s'appelle Neuilly-sur-Seine qui a fait un recours contre l'arrêté de carence. Ils ont gagné en cour d'appel contre le ministère, contre l'État. Alors je peux dire que tous les maires, pas seulement de la métropole, mais de France, regardent cet arrêté. On va voir ce qu'il y a dedans, d'où c'est analysé en ce moment par les services juridiques de la métropole, voir est-ce qu'on peut se positionner là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une vraie incompatibilité entre les possibilités foncières de nos communes, et on n'est vraiment pas la seule, c'est pas que le Pradet, et ce que demande l'État. Alors, aider les publics les plus en difficulté, on est moteur bien sûr là-dessus. D'ailleurs, on a fait des logements sociaux, mais on ne souhaite pas non plus défigurer la commune. Et au fait, si on devait respecter aujourd'hui à la lettre la loi SRU, on défigurait complètement la commune, ce qu'on ne souhaite pas faire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu rentré tous en résistance contre l'État par rapport à ces problématiques. Et on a demandé des choses très concrètes, parce qu'on n'est pas dans une opposition stérile et on ne veut pas non plus bloquer tout, on veut avancer. Alors ce qu'on a proposé, nous, à l'État, il paraît qu'il souhaite faire des expérimentations. Donc nous, on a demandé que la métropole soit une terre d'expérimentation, qu'on se mette d'accord sur l'objectif atteint au niveau de la métropole, qu'on l'atteigne ensemble de façon raisonnée. Alors on verra, je pense qu'il y aura peut-être ou pas une réponse du gouvernement sur ces questions. En tout cas, c'est la demande de l'ensemble des maires de la métropole, qui sont tous membres d'une majorité métropolitaine. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, M. Mûrier. Voilà, bah, la séance est levée. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt.